Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Hergé, dessinateur, scénariste, mais aussi peintre. Un créateur qui disait « Mes personnages, Tintin et les autres, ça vient de moi, c'est mes tripes. » Quelle que soit la qualité, le talent de mes collaborateurs, après moi, après lui, plus de Tintin, on le sait, que l'on s'en félicite ou qu'on le déplore. Un Hergé qui se jugeait moins manichéen qu'à ses débuts. Un Hergé qui ne refusait pas d'évoquer ses périodes de crise durant l'écriture de Tintin au Tibet et reconnaissait à la psychanalyse et à d'autres travaux d'introspection de grande qualité. Dans le cadre de la CRPLF, Communauté des radios publiques de langue française, France Culture diffusait une rencontre avec Hergé le 21 juillet 1993.
À l'occasion du 10e anniversaire de la mort du célèbre dessinateur, nous rediffusons la rencontre que Michel Cédric a réalisée le 9 janvier 1979 avec Hergé. Rencontre.
Hergé, bonjour.
Bonjour.
Je sais que vous n'aimez pas tellement les interviews, enfin voilà, une petite heure, une méchante petite heure à passer.
Ça n'est pas une méchante petite heure, non, je vous écoute.
Malgré son air encore très gamin quand même, Tintin aura 50 ans. Et vous l'avez créé en 1929 pour le supplément illustré hebdomadaire pour la jeunesse du quotidien le 20e siècle.
C'est bien ça.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces personnages qui ont connu vraiment le succès immédiatement, vous les avez créés très rapidement, presque en un jour, non, Tintin et Milou ?
Oui. Ils n'ont pas d'ailleurs connu le succès immédiatement. C'était un succès très limité parce que ça se limitait aux lecteurs du XXe siècle qui était un journal très confidentiel. Alors, ça a été un succès parmi ce petit nombre de lecteurs, c'est vrai. Mais enfin, on ne peut pas parler de succès à ce moment-là. Et j'ai fait ça très vite. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance. C'était pas un métier, je faisais ça comme une petite farce. J'ai fait ça sans réfléchir presque, voilà, un petit personnage qui devait, dans mon esprit, être sans lendemain. Donc ça n'avait aucune espèce d'importance.
Mais quand vous êtes entré au XXe siècle, oui. Le journal Le XXe siècle, c'était d'abord comme employé, non ? Juste
d'abord
après le collège.
D'abord comme employé. Et puis alors, j'ai fait mon service militaire après ça, et je suis rentré après au XXe siècle, mais avec d'autres attributions à ce moment-là. On souhaitait que je devienne reporter photographe, et en même temps photograveur, c'est-à-dire qu'on aurait eu là sous la main, si j'avais été doué des qualités qu'on attendait de moi, et on aurait eu ça là sous la main, quelqu'un qui, par exemple, aurait pu partir le dimanche après-midi voir un match de football, rentrer, faire les clichés, et hop, le soir, ça apparaissait dans l'édition du soir. Mais j'ai bien appris la photogravure, mais jamais la photographie. On m'a collé un appareil qui datait à peu près du temps de Nadar entre les mains, quelque chose qui... et je n'ai jamais pu m'en servir. Voilà, mes essais donc de reporter, photographe, se sont limités là. Et alors, un jour, le directeur du XXe siècle a eu l'idée de, pour accroître son tirage, qui devait être tout de suite de 10 000 par jour, je crois, ou un peu moins, a eu l'idée donc de lancer un supplément pour la jeunesse. Et comme il savait que je dessinotais par-ci, par-là pour des revues, notamment pour le Boy Scout belge, il m'a dit « c'est vous qui allez vous en charger ». Stupéfaction générale. Et puis voilà, je m'en suis occupé. Et donc, ce petit bonhomme est né vraiment, presque sans réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qui sera facile à dessiner ? J'ai fait un rond, je mets un petit accent là au-dessus pour la petite mèche. Et puis, comme ça, au moins, j'avais des chances de le réussir, enfin, qu'on le reconnaisse à chaque dessin, à peu près. Et donc, ça s'est fait comme ça, très légèrement, et sans penser du tout à ce qui pourrait suivre.
Mais il y a une grande différence entre Totor, CP des hannetons, et Tintin et Milou, parce que Totor, c'était, si je me souviens bien, oui, c'était du texte illustré, oui, tandis vrai, que l'autre, pas, c'était vrai, de la bande dessinée.
Oui, vraiment. Oui, oui,
entre, et ça, c'était rare à l'époque.
Oui, c'est-à-dire entre les deux, j'avais fait la connaissance des comics américains. Voilà, tout simplement ça. Avant, j'en étais resté, moi, à Bécassine, et enfin, ce genre de récits illustrés ou d'illustrations commentées, ça dépend comment on le regarde. Et alors, j'ai vu, par l'intermédiaire de journaux mexicains qui reproduisaient des comics américains, j'ai découvert pour moi la bande dessinée, la vraie bande dessinée, avec donc texte, ou dialogue plutôt, et dessins mêlés.
Vous n'osez pas dire par l'intermédiaire de qui vous avez découvert la bande dessinée, Hergé.
Si, ah, si j'ose le dire. Enfin, je ne pensais pas à le dire. Il se faisait qu'à l'époque où je travaillais au XXe siècle, il y avait également un collaborateur de ce journal qui s'appelait Léon de Grelle. Et Léon de Grelle était parti en reportage au Mexique, si mes souvenirs. Je crois que c'est bien comme ça, au Mexique, où, après ce qu'on m'avait raconté, il s'était trouvé devant une alternative, ou bien assassiner le président en titre, je ne sais plus quel était son nom, ou bien épouser sa fille. Enfin, il a dû choisir, il n'a fait, semble-t-il, ni l'un ni l'autre. Et donc, lui a envoyé alors, ses reportages, parus dans les journaux mexicains, je ne sais pas moi. En tout cas, je sais que j'ai reçu des journaux mexicains par cette voie-là. Vous voyez qu'il n'y a rien de secret.
Enfin, ce qui était important, c'est qu'il y ait des bandes dessinées dans ces journaux mexicains.
Oui, oui, oui. Et alors, voilà, j'ai trouvé ça. Ça a été une véritable révélation pour moi. Et encore qu'il y avait déjà, à l'époque, il y avait déjà Ziguepus, il y avait d'Alain Saint-Augan, qui lui était aussi vraiment de la bande dessinée. Et donc, je l'avais vu également. Enfin, c'était surtout les Américains qui m'ont frappé, parce que c'était en couleur, parce que c'était à dose massive, je dirais, puis que tous les genres y étaient représentés.
Vous aviez été le voir, Alain Saint-Augan, donc c'est que ça vous intéressait drôlement.
Oui, oui, plus tard, hein, je crois que j'ai été le voir vers les années 31, je crois. Je sais que j'étais le voir. Vous savez tout, vous ne devez plus m'interroger.
Non, je vais voir si ce que je sais est vrai.
Vous vérifiez. Pardon, j'ai été le voir effectivement pour lui montrer mes dessins, pour lui demander ce qu'il en pensait. Il était très 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 gentil. Et il m'a dédicacé une de ses planches d'ailleurs.
Je veux revenir à, cette revue du, oui, Boy Scout belge, oui, dans laquelle donc vous dessinez Totor, oui, CP, des hannetons.
Oui.
Vous étiez scout.
Oui, j'étais scout, oui, oui.
Longtemps même.
J'étais très longtemps scout. J'ai commencé en 18, je crois. Et j'ai dû terminer vers 25, c'est pas mal, pendant 7 ans, je crois que j'étais scout. Et puis j'ai gardé des sympathies pour le mouvement, pour des amis qui étaient restés scouts eux-mêmes.
Et Tintin, c'est un grand scout, non?
Oui, c'est un peu ça, évidemment. Il y a une filiation. Le Totor, c'était un vrai scout. Tintin, lui aussi, il est un peu de cet esprit-là. C'est l'esprit un peu d'aventure, de jeu, je dirais. Hein? Et avec les qualités qu'on prête aux scouts, en tout
des
cas.
Débrouillards,
fidèles à la parole donnée, respectueux de la nature aussi, déjà. Bon, envers les animaux, enfin, etc. Optimistes, solides, costauds, enfin voilà.
Et puis, quand vous étiez scout, vous faisiez des jeux de piste, oui. Comment ça s'appelait? Des signes de piste, non?
Avec des signes de piste, notamment. Oui, oui, des jeux, oui, certainement.
Donc, on parlait d'Indiens, déjà, et puis c'est de là qu'est née cette fascination.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu toute une période dans le scoutisme, à l'époque, qu'on a qualifié de la période indianiste, d'ailleurs, et où on était fasciné par les Indiens des plaines, les Sioux, les Cheyennes, etc., ces gens-là. Et il a paru à cette époque-là, d'ailleurs, un très beau bouquin qui s'appelait « Mœurs et histoire des peaux rouges » d'un Français qui s'appelle Paul Cause, il a fini d'ailleurs par aller s'établir au Canada dans une tribu, dans une réserve de peaux rouges. Il a encore écrit d'autres bouquins. Et j'ai toujours eu pour eux, pour ces Indiens des plaines, une grande admiration, c'est vrai.
Encore maintenant?
Encore
maintenant.
Depuis
que vous y êtes allé? Parce que vous êtes allé à Wounded Knee?
Je suis allé à Wounded Knee, je suis allé dans la réserve de Pine Ridge, donc, qui est dans le South Dakota, où j'ai rencontré des gens comme par exemple l'arrière-petite-fils de Red Cloud, Nuage Rouge, célèbre pour ses batailles avec Sitting Bull, etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire indianiste, je m'y perdrai d'ailleurs.
En fait, vous êtes toujours fasciné par les Indiens.
Oui, je suis fasciné. Je trouve qu'on leur a fait grand tort, un énorme tort. Les Blancs ont été absolument ignobles à leur égard. C'était un véritable génocide. Et oui, leur façon de vivre, une sorte de noblesse, leur religion, leur philosophie, je ne dis pas que ça me fascine, mais enfin, j'admire. Je suis d'ailleurs toujours en rapport avec des Peaux-Rouges là-bas.
Par lettre ?
Par lettre, bien sûr.
Alors, on peut s'étonner qu'on ait dû attendre le troisième album de Tintin et Milou pour voir ces Indiens, Tintin en Amérique.
Oui, et pas assez, je me le reproche. Mais Tintin donc est né 29. 29, c'est l'année des grands reporters. C'est le Albert Londres, c'est tous ces grands reporters qui sillonnent le monde avec leur petite valise. Ils s'embarquent sur le transsibérien, ils prennent le bateau. Enfin, ils vont dans les points chauds du globe, comme d'ailleurs encore maintenant. Mais maintenant, c'est plutôt en équipe, c'est plutôt la télévision. Hein. Là, c'était vraiment le type qui allait là-bas, sur place. Comme je travaillais dans un journal et que je n'étais pas reporter, l'idéal pour moi, c'était le reporter. C'était le héros pour moi, puisque j'étais en dessous d'eux, j'admirais les véritables journalistes. Et parmi les journalistes, ceux qui étaient de véritables reporters. Tintin, donc, était dans un point chaud du globe à l'époque. C'était la Russie soviétique. Bolchevique, on disait encore à l'époque. Et il a pris parti, bien sûr, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que ça paraissait dans un journal catholique, que j'avais été élevé de manière catholique, et que pour moi aussi, le bolchevique, c'était l'homme au couteau entre les dents, capable de toutes les ignominies, n'est-ce pas, et les atrocités. Et ensuite, je croyais tout de suite après faire Tintin chez les Indiens, ou Tintin en Amérique. Mais entre-temps, le directeur du journal m'a... je dirais presque supplié, vous ne pouvez pas faire ça, notre belle colonie, le Congo, Léopold II, etc., vous voyez ça, les missionnaires, nous qui leur apportons la civilisation, etc., etc. Et alors j'ai fait Tintin au Congo, mais sans grand enthousiasme, je l'avoue, je pensais toujours à la suite.
Et vous les referiez aussi bien Tintin au Congo que Tintin au pays des Soviets?
Ah ben, ce serait très différent, je suppose. Ce serait très différent. Tout a évolué, tout a changé. Moi aussi, j'ai changé. Mais oui, en fait, Tintin reporter et Tintin est un espèce de miroir. D'ailleurs, tout journaliste est un espèce de miroir, une espèce de miroir qui reflète évidemment les événements qu'il va regarder. C'est un miroir. Tintin a été le miroir de ce que la plupart des gens pensaient du temps de la Russie bolchevique, j'insiste encore bolchevique, quant à l'idée colonialiste, oui, mais pratiquement tout le monde était colonialiste. Ça ne faisait pas de problème, c'était comme ça. De toute éternité, le blanc avait été créé pour aller apporter la civilisation aux autres et aux noirs, n'est-ce pas ? Il y avait l'exposition coloniale. En France, il y avait notre loterie coloniale. Enfin, bon, tout était à la coloniale. Donc, Tintin n'était pas raciste, il était colonialiste, comme tout le monde l'était à l'époque.
Mais quand on regarde Tintin au pays des Soviets, on est quand même étonné de voir ce premier Tintin, parce qu'il ressemble quand même assez peu au Tintin actuel, non ?
Ah oui, il est mieux dessiné maintenant, je crois.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous n'avez pas republié Tintin au pays des Soviets jusque...
En partie, oui, en partie. En partie parce que, je ne sais pas comment ça s'est fait, on a remis en couleur les autres albums qui avaient paru. Entre-temps, ça a commencé vers 42, je crois qu'on l'a mettra en couleur, 42, 43... Et au pays des Soviets, ce n'était pas le moment de le republier de toute manière. C'était sous l'occupation, il fallait, hein, c'était pas à faire. Et au moment, alors, par après, où on aurait pu le faire, la qualité des dessins, si j'ose dire, enfin, je crois avoir fait des progrès quand même, était tellement, avait tellement changé, ou bien il aurait fallu le recommencer du point de vue dessin, ce qui était possible, évidemment. Ben alors, du point de vue idéologique, ça aurait été tellement naïf, enfin.
Mais je crois que vous avez dit que vous n'aviez pas de prétention esthétique quand vous dessiniez. C'était avant tout raconter une histoire.
C'est ça l'important.
Dessin aurait encore pu être
republié. Oui, mais le dessin est un mode d'expression. Hein, raconter une histoire, c'est pas, justement pas la beauté du dessin qui m'intéresse. Là, vous avez raison, c'est pas du point de vue esthétique, mais du point de vue expressif, du point de vue expressionniste, je dirais. C'est du point de vue de l'expression, en tout cas. Un dessin, pour moi, s'il est beau, tant mieux. Mais ce n'est pas ça, surtout dans la bande dessinée, c'est avant tout raconter une histoire, la raconter au moyen de dessins et de dialogues, l'un qui est complétant l'autre. Et le dessin, avant tout, doit apporter une information. Donc la beauté, pardon.
Il doit être efficace.
Il doit être efficace, absolument.
Mais le dessin, vous en faisiez déjà tout petit garçon?
Oui, oui, oui.
Pour raconter des histoires, précisément?
J'ai fait ça pendant ma prime jeunesse. Je me racontais des histoires et en effet, je les griffonnais dans le bas de mes cahiers. Je me souviens d'un petit personnage que je dessinais, mais il n'a jamais eu de nom, je crois, et je ne sais plus comment il était. Ses cahiers ont disparu, bien sûr. Mais je me racontais des histoires. C'était plus pour ne pas les oublier que je fixais les points forts de l'histoire. Mais je n'ai rien conservé de ça.
C'est dommage. Mais vous n'avez jamais suivi de cours de dessin, rien du tout. Vous avez été influencé par des dessinateurs, peut-être.
Oui, 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 sûrement.
C'était qui à l'époque?
Et le premier dessinateur qui m'a fortement influencé, je crois que c'est un nommé Pierrix, qui était un dessinateur de scoutisme également, et qui avait un dessin très élégant, et qui était très précis aussi dans ses dessins. C'était surtout Pierrix. Après ça, il y a eu toutes sortes de dessinateurs.
Alain
Satogan, bien entendu. Mais avant ça, même, il y avait, parce que j'ai fait de la publicité aussi, il y avait des dessinateurs français qui étaient absolument comme René Vincent, par exemple, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Mais enfin, c'est un dessinateur de mode et de publicitaire, d'ailleurs, et dont le dessin était extrêmement élégant et qui me fascinait à l'époque. Alors, Alain Satogan, les Américains, Joe McManus, par exemple, qui m'a beaucoup influencé, lui.
Et vous avez dit aussi que c'était le cinéma qui vous avait fortement aidé en ce qui concerne le découpage, oui. Des choses plus techniques.
Je trouve qu'il y a des analogies donc entre le cinéma et la bande dessinée, en ce sens que les plans, par exemple, les plans, évidemment, ils sont immobiles dans le dessin, mais les plans sont exactement les mêmes plans. La façon de découper une histoire me paraît, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça me paraît être en tout cas analogue. Le découpage de cinéma et le découpage d'une planche de bande dessinée sont très proches l'un de l'autre, avec cette différence que l'un bouge et l'autre ne bouge pas. Quoi.
C'est Charlot que vous aimiez bien au cinéma?
Ah oui, Charlot sûrement. Et Harry Langdon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui.
Oui.
Un merveilleux comique aussi, un peu plus triste encore, un peu, mais très très beau, très beau.
Les westerns, vous deviez aimer
ça?
Ah
oui, bien entendu, les westerns.
Enfin, il y avait un côté du western que vous ne deviez pas apprécier. Quand même, les cow-boys étaient toujours les meilleurs.
Mais oui, eh bien, curieusement, je n'étais pas encore à ce point-là quand même. Je trouvais quand même, enfin, inconsciemment, c'était les bons, c'est-à-dire les cow-boys qui devaient gagner. Ça, c'est quand on jouait cow-boy indien, c'était toujours les blancs qui gagnaient. Les peaux rouges, ça finissait toujours très mal.
Je reviens à vos premiers albums, donc Tintin au pays des Soviets, et puis Tintin au Congo, Tintin en Amérique, je crois qu'il y a encore Les cigares du Pharaon. Oui. Ce sont des albums, on ne s'en rend absolument pas compte, mais des albums qui ont été faits très rapidement. C'est-à-dire qu'il vous arrivait pour ces albums d'arriver, il paraît, le matin au studio pour dessiner, ne sachant même pas ce que vous alliez faire, et terminant vos deux pages en fin de journée.
Pour faire partie des cigares du Pharaon, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Mais avant ça, effectivement, je ne savais vraiment pas. Parce que je ne prenais pas ça au sérieux. Je vous dis, c'était un jeu pour moi qui devait être sans lendemain. Le fait qu'il y en ait eu un, puis deux lendemains, puis trois lendemains, ça m'étonnait toujours. Ça continue d'ailleurs à m'étonner encore maintenant. Hein. Mais c'était sans importance. Alors, quoi que je puisse faire, c'était bien. Je m'amusais.
Je continue
à m'amuser, c'est vrai.
Une grande chance.
Oui, c'est vrai, j'ai une grande chance, je le sais.
Et c'est à partir du Lotus Bleu que tout a changé, que vous avez commencé à vouloir vous documenter. C'est toute une histoire, le Lotus
Bleu.
C'est
toute une histoire,
on va y revenir.
C'est un grand tournant, ça, c'est vrai. C'est parce qu'au moment où, donc, dans le petit 20e, on a annoncé que Tintin allait partir pour l'Extrême-Orient, à partir de la semaine prochaine ou dans le numéro suivant, etc. Tintin s'embarque pour l'Extrême-Orient. Pardon. J'ai reçu une lettre d'un abbé qui est toujours là et qui m'a écrit tout récemment encore, qui était à l'université de Louvain et qui était l'aumônier des étudiants chinois de Louvain. Et il m'a dit, attention, vous allez envoyer Tintin en Extrême-Orient, vous allez dessiner des Chinois avec des tresses, et vous allez leur faire manger des nids d'hirondelles, et puis etc. Vous allez leur parler des supplices chinois, attention, quand même, soyez prudents. Et je lui ai répondu que je ne demandais qu'à être prudent et qu'à faire le mieux possible, mais que, toujours comme un scout, hein, faire de son mieux. Hein,
oui, voilà.
Hein, mais qu'il me mette en rapport avec un de ses étudiants et que peut-être comme ça on arrivera à faire du bon travail. Il m'a mis en rapport avec un jeune Chinois jeune à l'époque, comme moi, et qui m'a vraiment ouvert les portes, je dirais, de la philosophie, de l'art, de la poésie chinoise, de la civilisation chinoise. Il m'a aidé beaucoup pour tous les détails, de façon à ce que cet album ait l'air d'être vraiment très chinois. C'est la première fois donc que je me suis rendu compte que je pouvais donner plus de crédibilité à l'histoire en dessinant des décors précis, en situant l'action dans un milieu qui ait l'air d'un milieu réaliste, vrai.
Cet étudiant chinois a d'ailleurs sa place dans le Lotus Bleu, c'est le
petit
Chang.
Ah oui, c'est lui, c'est le petit Chang, oui, c'est le petit Chang qui est rentré. Alors, il étudiait ici la sculpture et la peinture à l'Académie de Bruxelles. Et il est rentré dans son pays, je crois, en 1938. Il m'a écrit 2-3 fois, nous avons correspondu. Et puis la guerre est arrivée, plus de nouvelles, bien sûr. Et puis après la guerre, plus de nouvelles non plus. Puis il y avait là-bas toutes sortes de bouleversements encore. De sorte que je l'ai complètement perdu de vue. Et il y a maintenant 3 ou 4 ans que, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai retrouvé à Bruxelles un Chinois dont le frère est l'ami intime de Chang Chongzhen.
Vous avez l'air de dire que c'est simple, mais vous posiez quand même pas mal de questions à beaucoup de Chinois pour le retrouver, ami Chang.
Oui, bien sûr, j'ai été à Formose.
Mais c'était devenu un ami.
C'était vraiment un ami, non seulement un ami, mais en même temps, je dirais, un maître à penser, si vous voulez, parce que il m'avait fait comprendre qu'il n'y avait pas que la civilisation occidentale, enfin, il y en avait d'autres. C'était très, très important, ça, de savoir qu'on n'est pas seul sur Terre. Je ne parle pas seulement du nombre de Chinois, qui est important, c'est sûr, mais d'une civilisation, d'être toujours braqué sur sa propre civilisation, et surtout à l'époque. Maintenant, les moyens d'information sont beaucoup plus développés, mais à l'époque, on vivait en vase clos, et la Chine, eh ben, c'était la Chine, c'était bien loin, c'était des vagues humanitaires, des yeux bridés, c'est tout ce qu'on savait, pratiquement.
Mais donc, pour faire plaisir au départ à cet abbé Gosset,
oui.
Vous êtes documenté,
oui, je me suis documenté
sur l'Extrême-Orient. Et vous avez continué, parce que pour le Temple du Soleil,
vous
êtes documenté sur la religion Inca.
Oui.
Vous avez trouvé aussi une espèce de Chang comme ça pour vous guider?
Non, je n'ai pas trouvé de Chang. J'ai trouvé un excellent livre à l'époque. Un excellent bouquin, Pérou-Bolivie, de Wiener, je crois que c'est de Wiener, oui, qui était un livre extrêmement bien documenté sur les Incas, sur la civilisation incaïque. Et c'est pas du tout par souci, je dirais, je suis pas tellement maniaque pour le détail, mais c'était en fait pour me donner aussi l'impression que mon histoire était vraie. Le fait de situer Tintin dans un environnement, enfin dans un décor en tout cas, qui est réaliste, dans lequel je puis croire moi-même, ça m'aide beaucoup à croire à ce que je raconte.
On a marché sur la Lune aussi, vous êtes entré en contact avec des scientifiques.
Oui, avec 2 scientifiques, d'abord notre compatriote Bernard Heuvelmans, qui m'a beaucoup aidé, pas dans le scénario même, en m'apportant les éléments du scénario. Et puis un autre, un Français, Ananoff, qui avait publié à l'époque un bouquin qui s'appelait L'Astronautique, et dans lequel toute la théorie du voyage spatial était déjà là. Elle existait, la théorie existait. Les problèmes étaient loin d'être résolus. En fait, ils allaient être résolus très peu de temps après. Dans l'histoire de l'humanité, c'est peu de choses que ces 10-12 ans qui ont suivi. Enfin, la publication de ce bouquin et la réalisation. Mais toute la théorie était déjà dans ce bouquin. Et je me suis mis en rapport avec ce Alexandre Ananoff et j'ai fait construire alors un modèle de maquette que vous avez
voilà,
sous les yeux, que je lui ai soumis d'ailleurs. Et donc, tout ça était plausible à la condition, bien entendu, que mon ami Tournesol et trouver un moteur à énergie nucléaire. Hein, c'est le postulat, ça.
Mais ça devait servir aussi drôlement à Bob Demoore,
qui s'occupe
des décors.
C'est précisément, donc, cette fusée est faite, je dirais, comme on peut la découper comme un morceau de tarte, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut voir quelle est, l'endroit de la fusée, à l'intérieur de la fusée, devant lequel se trouvera tel ou tel personnage.
Oui, parce qu'il faut dire qu'elle est meublée, tout est prévu.
Elle est meublée, tout y est, tous les appareils. À l'époque, en tout cas, tout ça était plausible. Il s'est révélé que c'était tout à fait différent, mais avec l'énergie nucléaire, tout était possible. Hein? On l'utilise maintenant pour des sous-marins, pour des grands bateaux, pas pour un avion, c'est pas possible encore. Pour une auto, ça viendra peut-être. C'est pour ça que cette fusée était si grande, et parce qu'il fallait un moteur énorme pour propulser la fusée vers la Lune.
Puisque je parlais de Bob Demore, oui. Qui est votre collaborateur, oui. Et qui s'occupe donc des, oui, décors, je crois que c'est avec lui aussi que vous vous êtes embarqué sur un cargo, oui, un jour. Oui. Et là aussi, c'était par souci de véracité, j'allais,
oui,
dire.
Oui, c'est vrai, oui.
C'était uniquement pour ça, Coke en stock.
Oui, une partie de l'action devait se situer à bord d'un cargo, et... Il faut avoir été à bord d'un bateau comme ça pour se rendre compte comment c'est fabriqué. Quand on voit des photos de loin, tout ça, on ne s'imagine pas. Il a fallu vivre là-dessus pas longtemps, un jour ou deux, prendre des photos, prendre des croquis. Vous savez, ce sont des pièces de métal, c'est lourd, c'est fort, c'est costaud pour résister aux vagues et tout ça. C'est pour donner l'impression que tout ça était vrai. J'étais moi-même très content d'avoir pu donner cette impression que c'était un vrai cargo.
Et vous devez en avoir pas mal de documentation comme ça, si,
oui,
si vous prévoyez.
Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais enfin, pour chaque chose maintenant qui se prépare, pour chaque album qui se prépare, du moins ceux qui ont pour cadre un pays bien déterminé, alors on trie, on sélectionne, on prend des bouquins et c'est là-dessus qu'on se base. Je veux dire, on n'a pas toujours en permanence tous les documents. Il faut s'informer au fur et à mesure.
Bien sûr, rester dans l'actualité.
Oui, c'est sûr.
Je reviens à Chang.
Oui.
Parce que je sais que c'est important dans votre vie, cette, oui, rencontre avec,
absolument,
Chang, et puis tout ce qui en a découlé.
Oui, c'est vrai.
Parce que bon, vous disiez tout à l'heure, il m'a ouvert les portes de ce monde, oui, oriental. Oui. Et puis vous êtes intéressé à la philosophie orientale, à la langue aussi,
oui,
je crois.
Oui.
Il y a eu Tintin au Tibet aussi, au fond.
Oui, ben justement, Tintin au Tibet, c'est vrai, on l'oubliait, mais... C'est assez curieux que dans cette histoire-là, Tintin part à la recherche de son ami. C'était vraiment prémonitoire, parce que je ne savais pas que j'allais le retrouver. Enfin, je l'espérais toujours, mais c'était difficile. Enfin, il y a 800 millions de Chinois, il fallait vraiment un peu de chance. Hein. Et Tintin au Tibet, ça a coïncidé deux choses, donc d'une période difficile de mon existence, et ensuite donc la recherche inconsciente donc de cet ami, et peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas faire de psychanalyse, j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais enfin, recherche peut-être d'une espèce de philosophie extrême orientale, taoïsme ou zen, je ne sais pas.
Mais vous êtes entré un jour en psychanalyse avec un psychanalyste.
Pas longtemps.
Suisse,
ça, oui, c'est
vrai.
Vous savez tout. Je ne peux rien vous cacher. Oui, mais enfin, justement, c'était à l'occasion de ces difficultés que je traversais à l'époque. Ça n'a pas été long d'ailleurs, mais enfin, ça a été efficace.
Mais vous expliquez des choses à propos de Tintin au Tibet.
Non, lui pas.
C'est pas lui qui vous a parlé de la couleur blanche, quoi.
Si. Si, si. Mais enfin, oui, de ce point de vue-là, oui. Il m'a parlé de cette couverture blanche que j'avais faite. C'est par après qu'il m'en a parlé. Parce que la couverture n'était pas encore faite et tout ça. Mais c'était vraiment, chez moi, je ne rêvais plus que de choses blanches. Je ne rêvais plus que de blanc, du plâtre, je ne sais pas, des tas d'histoires. Tout était blanc dans mes rêves. C'était assez curieux et assez angoissant, même cette permanence, ce retour de rêve très différent, mais toujours avec comme thème principal la couleur blanche. Et il m'a expliqué alors que c'était, voilà, une recherche de la pureté, et il a même ajouté, c'est un démon de la pureté. Ça va loin, ça.
Vous y croyez donc à la psychanalyse ?
Oh, certainement, oui, je crois, sûrement. C'est sûr.
C'était une expérience concluante pour vous ?
Ah oui, mais même sans ça, enfin, il y a des témoignages tellement précis, il y a toute l'œuvre de Freud, et non seulement de Freud, mais de Jung, et d'autres encore, mais
surtout
enfin...
Surtout de Jung,
oui, qui est une œuvre très importante, et il ne s'agit pas de croire ou pas croire, je crois que ça existe, simplement, il ne faut pas tout ramener à ça, mais ça existe.
En parlant de Jung, vous dites, il m'a orienté vers les philosophies qui ne sont pas seulement des idées et des mots, mais que je ressens de tout mon être.
Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est vrai. Il y a chez nous, en Occident, un désir de s'exprimer toujours de façon précise par des mots. C'est comme si on découpait la réalité en tranches, comme ça. Il faut que ça rentre dans des classements et tout ça soit bien précis et tout. Or, pratiquement, c'est beaucoup plus flou que tout ça. Et je crois que le zen, par exemple, le taoïsme surtout, sont deux philosophies du flou. Du flou. Voilà. Du spontané, du non calculé, du non tranché.
Vous avez appris à découvrir le zen ou le Tao comment ? Grâce à Alan Watts ?
Mais vous savez tout, je le répète encore, grâce à Alan Watts, vous avez raison. Dont j'ai lu un premier livre qui s'appelait « Psychothérapie orientale et occidentale » et dans lequel il fait le parallèle entre nos psychothérapies à nous, occidentales donc, et les moyens de libération extrême-orientaux qui s'apparentent ou qui remplacent ou qui sont l'équivalent ou presque de nos psychanalyses, de nos psychothérapies. Hein, le taoïsme notamment, le Vedanta, le Zen, sont des équivalents, sont des moyens de libération qui sont donc, dont le but est, je dirais, analogue à celui d'une psychothérapie qui est aussi faite pour obtenir la libération de la personne qui s'y soumet.
Mais c'était un besoin chez vous de trouver des gens comme Jung, de trouver des gens comme Watts.
Peut-être était-ce un besoin, ça je ne sais pas. Enfin, j'ai toujours été attiré par ça, mais d'une façon plus précise dans ces dernières années en tout cas.
Il y a aussi eu Arnaud Desjardins.
Et il y a aussi eu Arnaud Desjardins, c'est absolument exact. Oui, oui, les chemins de la sagesse, mais oui.
On dit, quand je dis on, je parle de vos collaborateurs, des gens qui vous entourent, précisément que vous êtes un homme sage.
Oh, si c'était vrai.
Et peut-être que ceux qui vous connaissent de plus loin vous ont souvent considéré plutôt comme un homme distant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas tellement frayer avec les autres. Bon, on ne vous voit pas à la première de Lucky Luke, peut-être pour des raisons bien précises.
Oui.
On ne vous voit pas à des séances de dédicace. Alors non. Je ne sais pas, est-ce que c'est de la discrétion, de la sagesse peut-être ?
Je ne sais pas moi-même ce que c'est. Mais vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit « Two is a company, three is a crowd. » Deux est une compagnie, trois est une foule. Alors, du moment que... Moi, j'aime bien le dialogue, j'aime beaucoup les gens, j'aime les gens, vraiment. Mais j'aime parler avec eux. Ou dans une grande réunion, vous dites bonjour, au revoir, comment allez-vous, etc. On se reverra l'année prochaine. Téléphonez-moi, ou plutôt ne te téléphone pas, c'est ça. Les mondanités, ça, je n'y tiens pas, c'est vrai.
C'est superficiel.
C'est très superficiel.
Mais même parmi les dessinateurs, bon, on a un peu l'impression qu'il y a... En fait, c'est un milieu de copains.
Oui.
Qui, parfois, ils sortent ensemble, ils s'amusent. Oui. On a un peu l'impression que vous êtes en dehors de cela. Je pense même à un album qui a été fait pour les 50 ans de Franquin.
Oui.
Et vous ne vous étiez pas mêlé aux autres dessinateurs pour faire cet album. Je crois que vous avez envoyé à Franquin votre album archive, mais à part, donc un peu en solitaire. Quoi.
C'est possible, ça, je n'attache pas ça d'important, je ne sais pas du tout, je ne me souviens pas bien de ça. Mais tout ce qui est, je dirais, organisation, zusammenmarschieren, je n'aime pas. Tout ce qui est embrigadement, cercle ou société, ça je ne suis pas très partisan.
Société.
Les sociétés.
C'est du bruxellois.
C'est du bruxellois, ça bien sûr.
Vous êtes plus bruxellois que belge, non ? Ça ne peut pas se dire de toute façon.
Ça ne peut pas se dire. Non, bon, enfin, de toute façon, je suis né à Bruxelles, c'est un hasard, mais enfin, et ma grand-mère était vraiment bruxelloise et ne parlait que le marolien. C'est-à-dire un mélange curieux entre le flamand et le français. Je ne l'ai jamais parlé, cette langue, mais je l'ai entendue et maintenant ça me revient parfois.
Cuic et Fluc, alors
Cuic
sont
et Fluc,
des...
oui.
Bon,
c'est
des
gamins de rue. Ce n'est pas tellement les membres, c'est un gamin de rue. Tout le monde joue à la rue à ce moment-là. En tout cas, moi j'étais un gamin de rue comme les autres. Et c'était gai parce qu'il y avait pas de voiture. Enfin, il y avait des voitures à cheval, mais c'était les autos, c'était rarissime, évidemment. J'étais un gamin de rue, oui, oui.
C'est pour ça qu'il n'existe plus, parce que les enfants ne jouent plus dans la rue, parce que...
C'est difficile de jouer dans la rue maintenant, hein.
C'est pour ça qu'il n'y a plus de Cuic et Fluc.
Non,
à cause
pas seulement
de Tintin
ça.
Aussi.
Non, c'est à cause de Tintin qui a pris de plus en plus d'importance et qui m'a monopolisé. Il est insatiable, ce garçon.
J'en reviens à ce que disent vos collaborateurs. Oui. Non, c'est important quand même d'avoir l'avis des gens qui sont toujours auprès de vous.
Sûrement.
Et ils sont tous unanimes à dire que vous êtes un monsieur très facile à vivre. C'est-à-dire qu'on ne vous voit jamais en colère, que vous êtes constant, que vous avez de l'humour, que vous avez du sérieux dans votre travail. Non, il paraît que c'est vraiment...
Que de qualité.
Oui.
On va bientôt m'élever une statue, si c'est vrai.
Il y a déjà la statue de Tintin Milou.
La statue de Tintin Milou, je préfère la mienne à côté. Si je suis facile à vivre, c'est eux qui le disent. Enfin, c'est parce qu'eux sont aussi faciles à vivre, je suppose.
Sans doute. En fait, ça m'a fait penser vraiment à une espèce de anti-ad hoc.
Je me mets parfois en colère. Ils ont oublié de dire que je me mettais parfois en colère. Et ce sont des colères ad hociennes. Ce sont des colères violentes. Parfois, oui.
Ça j'imagine
m'arrive.
Pas.
Si, ça m'arrive.
Et vous jurez
rarement.
Vous jurez
tout. Oh, je jure aussi. Oui.
Vous vous inspirez des jurants du capitaine ad hoc ou c'est le contraire?
Non, c'est le contraire, je crois. Il y a une part de moi. Vous savez, Gustave Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi, je ne dirais pas que le capitaine Haddock, Tintin, et c'est cette... Mais c'est tous une partie de moi, c'est évident, puisque ça sort de moi. Et j'ai donc cette part en moi, cette part d'homme colérique parfois, oui, véhément.
Ça doit être rare, alors.
C'est pas fréquent, et c'est de moins en moins fréquent, grâce au ciel.
Grâce au zen. Mais vous êtes un monsieur, c'est marrant, j'emploie le mot monsieur, mais c'est souvent ce que les autres dessinateurs disent en parlant de vous, monsieur Hergé.
Oui.
C'est un petit peu la différence. Bon, à propos d'autres dessinateurs, ils les appellent par leur prénom, ils leur tapent sur l'épaule, et vous, c'est monsieur Hergé. Vous voyez?
Pas tous, non. Puis, de toute façon, on m'écrit, les gosses, cher Hergé, etc., non.
Les enfants?
Des enfants, oui, ils sont plus naturels. Peut-être. Je ne sais pas. Si c'est vrai, je ne me rends pas compte de ça. Je ne sais pas ce qui fait que je les incite à dire monsieur. Je ne tiens pas du tout à avoir l'air d'un monsieur.
Oui, je vous disais, je trouve que vous êtes un monsieur très ouvert. C'est-à-dire que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Bon, déjà, je sais que vous êtes très ouvert aux idées des autres. Dans le travail, vous demandez leur avis.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas si vous êtes aussi... ouvert aux critiques des autres. Parfois, ça arrive, des critiques.
Oui, il y a des critiques, bien sûr. Oui. Enfin, c'est-à-dire, ouvert aux critiques, oui, je me pose la question, mais en général, je suis ma pente. Je suis ma pente à moi, sans tenir compte des critiques.
Je pensais à un truc bien précis, à Yvan Audouard, au cours d'une émission télévisée qui vous avait un petit peu attaqué.
Pas un peu.
Et c'était à propos de vos policiers qu'ils trouvaient...
Goody-goody, c'était bonbon. Ça.
Oui, c'est ça. Ils étaient bêtes, mais ils n'étaient pas assez méchants. Ils n'employaient pas leur matraque.
Non, justement. Mais moi, c'est assez curieux, mais j'étais souvent à Paris... Et les policiers à qui j'ai eu affaire n'avaient pas de matraque pour me taper sur la tête, en tout cas. Je n'ai vu que ceux-là, il doit bien en exister quelques-uns qui ne tapent pas tout le temps sur la tête des autres.
On le dit.
Il doit y en avoir quand même. Les miens sont de ceux-là.
Vous êtes ouvert aux philosophies orientales.
Oui.
Aussi aux autres bandes dessinées?
Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Je vois les bandes dessinées, j'en vois et j'en admire beaucoup. Hein. Mais enfin, je ne suis pas un grand liseur ou lecteur de bandes dessinées. Enfin, j'admire, je ne sais pas moi, il y a des quantités quand même qui ont du talent. Gire, Claire Bretcher, Fred, des choses comme ça. Olaski, Rezer, des choses que j'admire beaucoup. Oui. Mais je n'en lis pas beaucoup, c'est vrai.
C'est autre chose, ce n'est pas... Votre bande dessinée, c'est parallèle.
Ce sont des mondes parallèles. Hein, c'est mon petit monde à moi, et je me méfie un peu de ma mémoire, qui, malgré les ans, est encore parfois trop bonne. C'est-à-dire que on a tendance à s'assimiler des choses et à les restituer en croyant que c'est de soi, alors que c'est d'un autre. Et je ne m'entends pas trop regarder.
Alors, puisqu'on parle de caractère ouvert, vous êtes très ouvert aussi à un mode d'expression qui est la peinture.
J'aime la peinture, oui. Pas pour en faire, mais pour la regarder.
Vous en avez fait un jour dans votre vie.
Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps. Et j'ai bien vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Il faut faire ce pour quoi on est fait. Et très rapidement, je me suis amusé d'ailleurs. Hein, c'était très amusant cette expérience. Mais je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, j'avais rien à dire. Strictement rien. Et que ça aurait été éventuellement de la virtuosité, rien d'autre. Alors j'ai posé là bien sagement, voilà la sagesse qui revient, mes pinceaux sans aucune amertume, sans aucun regret. Voilà, j'ai repris mes crayons, et je suis fait pour ça plutôt.
Et c'était de la peinture abstraite déjà ?
Oui, enfin je ne savais pas très bien vers quoi je m'orientais, je ne sais pas, puisque justement au début on se cherche, hein. Et puis je me suis dit aussi qu'on dispose d'un capital, je dirais, énergie de X, mais pas de X, hein, c'est pas possible. Et pour la peinture, je crois qu'il faut y consacrer sa vie. De même que, pratiquement, j'ai consacré ma vie à Tintin.
Mais est-ce que c'est vrai qu'au début, quand vous avez pris ce pseudonyme de Hergé, vous vous étiez dit, je vais prendre ça pour mes petits dessins et je garderai mon vrai nom pour mes tableaux que je ferai plus tard?
Oui, c'était un peu à ça que je pensais. Pas d'une façon aussi précise, mais c'était ça. Je voulais prendre un pseudonyme en me disant, je dessine évidemment comme un pied, je dessine très très mal, plus tard, quand je serai peut-être un artiste avec un H aspiré, un artiste, alors je pourrai signer de mon vrai nom. Et voilà. Maintenant, je ne signe plus de mon vrai nom, c'est Hergé. Pas Monsieur Hergé, Hergé.
Vous avez dans votre bureau ici, je sais que chez vous, vous en avez aussi beaucoup d'œuvres d'artistes contemporains.
Oui.
Vous vous limitez à, j'allais dire presque, non, j'allais dire une chose vilaine, je ne la dirai
dites-le,
pas.
Dites-le, c'est vraiment gay. Si.
J'allais dire, on pourrait croire tout d'abord que c'est un placement d'argent, mais puisque vous venez d'expliquer que la peinture pour vous est déjà quelque chose qui vous tient à cœur depuis toujours, ce n'est sûrement pas ça.
Non, sûrement pas.
Mais
non.
Ces artistes comme Reynaud, dont vous avez une œuvre,
oui.
Vous les approchez, est-ce que vous ressentez le besoin de les approcher ou c'est uniquement
J'ai d'abord vu leurs œuvres et je les ai approchées après. Et il y a des miracles qui se produisent, il y en a qui ressemblent à leurs œuvres. Ça, c'est le signe de l'authenticité, Reynaud notamment, hein, qui ne fait pas que ça, ce que vous voyez ici. Il vient de faire des vitraux pour une abbaye, une merveilleuse abbaye à Noirlac, en dessous de Bourges quelque part. Et c'est un grand bonhomme, enfin voilà. Je n'ai pas éprouvé le besoin de les connaître tout de suite, c'est par après que je les ai rencontrés. Mais avant tout, c'était l'œuvre qui m'intéressait.
Mais il y a eu un changement là aussi, parce que tout au début, enfin il y a longtemps, je crois que vous vous intéressiez aux marines ou aux aquarelles.
Bien sûr. J'ai commencé par la peinture ancienne et j'ai laissé passer soigneusement tout ce qui était expressionniste flamand ici dans notre pays. Enfin. Et petit à petit, grâce à un ami qui avait ouvert une galerie de peinture ici à côté, et je me suis initié à cette peinture et j'ai pu en voir beaucoup, j'ai fait des comparaisons. C'est ça qu'il faut faire, c'est comparer les choses, on voit la qualité à ce moment-là. C'est comme pour tout, je ne sais pas moi, des porcelaines, n'importe quoi, si vous n'en voyez qu'une, vous pouvez, vous n'avez pas de point de comparaison, est-elle belle, n'est-elle pas belle. Il faut en voir beaucoup, il faut aller dans les musées, il faut voir les choses. Et c'est comme ça que petit à petit je me suis intéressé et même passionné pour la création contemporaine, oui. On ne peut pas toujours parler de peinture parce que ce n'est pas toujours de la peinture.
L'art contemporain.
L'art contemporain, oui.
Je crois savoir qu'il y a un album qui est plus ou moins en préparation. Enfin, c'est encore au stade de l'idée.
Oui.
Est-ce que c'est vrai que ça pourrait toucher au monde de la peinture ?
Oui. Je crois en tout cas au stade où c'est maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas très avancé. Enfin, l'idée de départ, c'est ça, oui, c'est ça. On ne peut pas dire que ce sera uniquement ça, mais enfin, ça évoluera, l'histoire de Tintin évoluera probablement dans les milieux de la peinture contemporaine, oui.
Pas parmi les faussaires, non ?
Peut-être aussi, pourquoi pas. Ça fait partie.
Ou les voleurs.
Ça fait partie.
Et donc, je suppose que c'est une idée, à nouveau, qui vous amuse, sinon vous ne le feriez pas.
Ah oui, bien sûr. Ça, il faut que ça m'amuse. Travailler pendant 2 ans à faire des dessins et créer des dialogues, etc., qui vous ennuierait, c'est pas pensable, enfin. C'est pas pensable. Et consacrer à ça toute votre vie, je dirais, toute la journée, tout le temps, et avec... C'est pas possible, il faut que ça vous amuse, sinon c'est pas possible. Donc, chaque fois, chaque histoire, ou bien j'en fais pas, mais chaque histoire doit m'amuser.
Donc, si vous n'avez pas de nouvelle idée qui vous amuse, ce serait terminé.
Ah, ce serait terminé. Pendant longtemps, j'ai cherché dans différents domaines. J'avais 2-3 idées, mais aucune ne me paraissait débouché sur quelque chose d'intéressant. Et puis alors, brusquement, jaillit l'idée de la peinture, là, et c'était une découverte pour moi aussi. Il faut que je découvre les choses. Moi, les histoires, je me les raconte, vous savez.
Est-ce que ça veut dire que si Hergé n'avait plus d'idée, que Tintin disparaîtrait?
J'espère qu'il ne disparaîtrait pas, puisque les albums...
Bien sûr, les albums, mais enfin, il ne lui arriverait pas de nouvelles aventures.
Il ne lui arriverait plus de nouvelles aventures, je crois réellement, à quel que soit le talent de mes collaborateurs, et Dieu sait s'ils en ont, pas seulement de moi, mais les autres aussi, s'ils font des choses beaucoup mieux que je peux les faire moi-même, dans certains domaines, je crois que les personnages eux-mêmes, le petit Tintin et tous ceux qui évoluent autour de lui, ça vient de moi. Je crois que ce n'est pas possible... C'est une espèce de... Ce sont mes tripes, enfin. Comme disait encore toujours Flaubert, je ne suis pas Flaubert, je m'empresse de le dire. Madame Bovary, c'est moi.
Vous avez fait parler Tintin dernièrement, et il disait « Mon père s'est servi de moi, découvrant le monde, pour se découvrir lui-même. »
Je crois que c'est un peu vrai, cette chose. Là, oui, je l'ai écrit, ça. Mais je crois que c'est vrai. Mais de même... Reparlons peinture, de même que la peinture sert aussi au peintre à se découvrir. Il se découvre au travers de ce qu'il fait. Et moi, je me suis servi de Tintin, bien sûr, j'ai créé Tintin, mais en le dessinant et en créant tout ça, au fond, je me suis découvert moi-même. C'est exact. C'est vrai, je crois. Parce que sans arrêt, quand on travaille comme ça, c'est un petit ordinateur qui fonctionne sans arrêt. De même, je reviens à la comparaison du peintre qui ne se pose pas de questions précises quant à la touche de couleur qu'il va mettre sur son tableau, qu'il va poser sur son tableau. Mais il y a un petit ordinateur qui fonctionne et c'est presque instinctivement que les choses se font. Il se découvre, il se cherche à travers ce qu'il fait. Je crois que c'est ça.
Mais depuis Tintin au pays des soviets, bon, on a vu qu'il y avait vraiment une évolution dans le dessin, une évolution aussi dans le récit sur le plan documentation. Mmh. Je suppose, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure aussi, j'ai beaucoup évolué, je n'écrirai plus Tintin au pays des soviets.
Pas comme
ça, et d'autres choses. Vous dites, je ne suis plus aussi manichéen qu'à mes débuts.
Ah non, sûrement.
Là aussi, on revient à ces philosophies orientales.
Oui.
Les nuances.
Oui. C'était hier même que je lisais un bouquin sur la mystique taoïste, et dans lequel, je ne sais pas quel est l'auteur chinois qui l'a écrit, mais enfin, j'espère que vous me passerez ce manque de mémoire. Il dit cessez de rechercher la vérité, contentez-vous de rejeter les opinions.
C'est facile
ça.
À suivre.
Comment?
C'est facile à,
oui,
à mettre tout ça en pratique.
Ah non, c'est pas facile. Non, sûrement, parce qu'on a ses opinions. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes, et on se met en colère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive, parce que j'ai des opinions. Mais au fur et à mesure qu'on cesse de tenir à ses opinions, la vie devient plus facile. La vie devient beaucoup plus facile. C'est Nietzsche qui disait aussi que toute conviction est une prison. Et c'est terriblement vrai.
Quand
on tient à ses opinions, on y tient, mordicus, les autres en face aussi, on se tape sur la figure. Hein? On se met en prison, on se fusille, on prêche la guerre sainte et on fait la guerre sainte parce que le monsieur en face n'est pas de votre avis. Voilà.
Et sur le plan pratique, votre vie, elle a changé de quelle manière suite à l'étude?
Eh bien, beaucoup plus... beaucoup moins manichéen, beaucoup plus...
Plus souple.
Plus souple, oui, infiniment plus souple, plus... il y a encore un mot, enfin, moins sectaire, enfin, moins tranché, plus compréhensif. Plus compréhensif à l'égard des autres. Je crois qu'il y a... C'est difficile de croire. Justement, j'en suis arrivé au point où il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tout ça est un mélange, je crois.
Et vous avez l'impression de vivre mieux?
Oui. Oh, oui, sûrement. Sûrement. C'est beaucoup moins fatigant. C'est beaucoup moins fatigant. C'est beaucoup plus agréable, dirais-je aussi. C'est beaucoup plus enrichissant. Enrichissant parce que chaque être, quel qu'il soit, avec ses défauts, ça peut être n'importe qui, enfin, avec ses défauts, avec ses qualités, ses défauts et ses qualités, parce qu'il en a, est une source d'enrichissement. Alors que, autrement, avant, je rejetais ce qui me paraissait être mal et je n'accueillais que ce qui me semblait être bien. Je me trompais une fois sur deux, bien entendu.
Vous vous êtes refait une éducation, si je comprends bien.
Oui, si vous voulez, oui. C'est pas vraiment une éducation, c'est une manière de voir les choses.
Oui, mais cette manière de voir les choses, je crois incomber quand même à peut-être une éducation chrétienne que vous aviez.
Oui, ça, certainement.
Le bien, le mal.
Oui, c'est sûr. Mais enfin, toute notre civilisation ici occidentale est basée pratiquement sur la civilisation judéo-chrétienne. Enfin, il y a les deux, donc. Je crois que tout le monde y participe un petit peu, ou bien qu'il le rejette violemment aussi, ça peut arriver. Enfin, on est baigné dans une espèce d'atmosphère chrétienne dans nos pays, il n'y a pas de doute. Et moi, peut-être plus particulièrement, non pas par mon milieu familial, mais certainement par l'école où j'étais, au Collège Saint-Boniface, évidemment, il y avait le bien et le mal, ça c'était un fait évident. Hein.
Et vous prenez maintenant le temps de vivre, de bien vivre ? Malgré les albums, malgré tout ce
mais
qui
vous
entoure.
Mais tout ça est un plaisir. Je crois que oui. Une fois que ça n'est plus une corvée, ça n'a jamais été une corvée, faire les dessins et faire mes histoires. Jamais, jamais, jamais. C'est parfois très difficile. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas facile, que c'est facile. Mais l'autre jour aussi, Demore me disait, en travaillant à son album, Coril Moussaillon, qui est en train de préparer la seconde partie, La Grande Armada, il me disait, mais pourquoi je me donne tant de mal? Alors, et ça m'amuse au surplus, c'est complètement ridicule. Il était conscient, c'est la même chose. On se donne du mal, mais on aime ce mal. On aime se faire mal, on aime cette difficulté-là, et on aime de vaincre ces difficultés. Mais oui, je crois que la vie est un perpétuel plaisir à ce moment-là.
Je suppose que je ne suis pas la première à vous le dire, et ce n'est pas du tout pour vous lancer des fleurs.
Oui.
Que vous paraissez 10, 15 ou même moins, plus 20 ans de moins que votre âge.
Allez-y, dites-nous, je vais faire ma première communion.
non, mais c'est renversant quand même.
Je ne sais pas.
Alors, je voulais savoir si c'était grâce à Tintin ou grâce au zen.
Ça, je n'en sais strictement rien du tout. Moi, je ne me sens pas. Enfin, je me sens, oui, je me sens bien. Voilà, c'est tout, mais je n'ai pas l'impression de paraître, comme vous dites, à 10, 15, 20, et pourquoi pas 50 ans de moins.
Ah non, je n'ai pas dit 50.
Pas dit 50, mais... c'est vrai. Je ne sais pas du tout ça, je n'ai absolument aucune réponse à donner.
Mais c'est cet art de vivre que vous avez découvert, peut-être.
Je ne sais pas, ce sont peut-être mes ancêtres qui m'ont légué une bonne santé, simplement.
Vous croyez que c'est aussi simple
que
ça?
C'est pas, peut-être, je crois que c'est aussi compliqué que ça.
Je vous remercie. Je vous remercie,
merci
Hergé.
Vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez Rencontre, une production du Centre du Hainaut, avec la collaboration de Samuel Roland, Ivana Barboni et Anne Chevalier. Aujourd'hui, l'invité de Michel Cédric était Hergé, rencontré le 9 janvier 1979.
Cette émission avait été diffusée sur France Culture dans le cadre de la CRPLF, Communauté des radios publiques de langue française, le 21 juillet 1993. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.